en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour à tous et à toutes. Il a reçu le prix Nobel de chimie en 2005, associé aux Américains Robert Krebs et Richard Schrock, pour leurs travaux sur le développement de la méthode de la métathèse dans la synthèse organique. Il est également membre de l'Académie des sciences depuis novembre 2005, dans la section de chimie donc. Canal Académie a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Yves Chauvin. Yves Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement pour venir participer à cette émission qui vous est consacrée. On vous sait assez discret vis-à-vis des médias, nous sommes donc d'autant plus flattés que vous ayez accepté cette invitation. Alors pendant une heure, nous allons revenir sur plusieurs moments de votre carrière qui vous ont amené un beau jour, alors que vous ne vous y attendiez pas, à recevoir le prix Nobel de chimie. Alors nous allons pouvoir parler de l'IFP, de l'Institut français du pétrole, également de l'industrie pour laquelle vous avez commencé à travailler avant d'entrer à l'IFP en 1960. Nous allons pouvoir également parler de vos découvertes, ou en tout cas des observations que vous avez pu faire. Voilà, observations sur la métathèse. Commençons, si vous voulez, directement. Vous êtes jeune, vous entrez à l'école de chimie Lyon, c'est ça?
C'est ça, oui. J'étais pas d'ailleurs un élève particulièrement brillant. J'ai jamais été très brillant dans mes études.
Non,
au classement, ça se voit. J'étais pas le premier. D'ailleurs, ça a surpris pas mal de mes collègues qui m'ont écrit. Ils ont dit, mais t'es pas le premier à l'école. Et maintenant, tu es le premier, quoi. Bon.
Il faut peut-être préciser. Bon, vous êtes né en Belgique, mais vous avez fait vos études en France. Vous étiez dans le nord de la France et vous êtes descendu à Lyon pour faire vos études.
Oui. Oui, oui. J'avais préféré une préparatoire à l'école de chimie et j'étais reçu à l'école de chimie de Lyon et c'est pour ça que j'ai fait mes études, voilà.
Mais pourquoi la chimie? C'était un choix particulier?
Non.
Vous aviez peut-être de la famille qui travaillait déjà dans le secteur?
Non, personne de ma famille travaillait dans la chimie. Je ne me rappelais pas exactement ma motivation. Peut-être aurais-je pu faire autre chose. Je pense que c'est très important de choisir. Enfin, le tout, c'est de se passionner pour ce qu'on fait. Je me serais passionné pour autre chose que la chimie si je n'avais pas fait de chimie.
Ah, vous voulez dire qu'au départ, c'était pas forcément une envie particulière?
Non, c'était pas une vocation.
C'était pas une vocation?
Non, c'est un peu peut-être un hasard. Je ne me rappelle plus exactement les circonstances.
Mais un hasard heureux. Et vous passez combien de temps alors à l'école de chimie?
Ben, j'ai passé 3 ans.
3 ans.
Puis après, je suis parti au service militaire.
Oui.
Et qui était assez long. C'était la guerre d'Algérie. Ça a duré 30 mois. C'était un peu long. D'ailleurs, quand je suis revenu, je me rappelais plus de la formule du phénol. C'était un peu grave. Mais bon, alors je suis rentré à l'industrie.
Mais alors du coup, vous n'avez pas fait de thèse?
Non, je n'ai pas fait de thèse parce que c'était assez difficile de demander un sursis à cette époque parce qu'il y en avait trop qui ne voulaient pas tellement partir en Algérie, quoi.
Et vous faisiez partie de cela, certainement.
Et donc, je suis allé, je suis pas resté quelques mois, mais je suis pas resté très longtemps, mais c'est difficile d'échapper au service militaire à l'époque, quoi. Voilà. Donc, j'aurais pu en insistant, mais enfin, il s'est trouvé que ça s'est pas bien présenté, donc j'ai pas fait de thèse.
Et alors, en revenant, comment a été le retour? Puisque vous disiez que justement, vous aviez oublié des formules.
Oui,
donc le retour a été difficile.
Le retour était pas difficile, parce qu'à l'époque, quand on cherchait une place, on vous en proposait 10. Alors, je suis revenu au mois de juillet, et puis, on m'a dit, mais voilà, vous avez le choix. Et donc, je suis rentré dans une société, parce que ils m'embauchaient tout de suite. Les autres disaient, oh, on va attendre la fin des vacances pour vous embaucher. Et eux, ils disaient, on vous prend tout de suite. Ben, je dis, pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la société où je suis rentré.
Donc c'est une société de pétrochimie?
C'était un peu l'ancêtre de Rhône-Poulenc, c'est-à-dire des intermédiaires pour la chimie industrielle, quoi, des grands intermédiaires.
Alors qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Eh bien, on faisait des recherches. Alors, on disait surtout, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu partout, les directeurs avaient tendance à dire, mais faites comme les autres, au moins on sait que ça marche les autres.
Les autres, les concurrents?
Les concurrents, on dit au moins on sait que ça marche.
Donc faites
alors,
pareil
un peu mieux, mais changez le moins possible, comme ça on n'aura pas de surprise. Alors moi c'était pas du tout mon concept, moi j'étais plutôt toujours à dire, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Je disais toujours, si vous voulez trouver du nouveau, faites donc du nouveau. Alors ça s'accordait pas bien avec ma ma mentalité. Alors du coup, je suis parti.
Au bout de combien de temps ?
Au bout de 2 ans et demi, je crois. Et puis, je suis entré à l'Institut français du pétrole parce que je pensais que on pouvait à la fois faire de la chimie appliquée, ce qui m'intéressait, et faire de la chimie fondamentale, ce qui m'intéressait aussi.
Alors, l'IFP, c'était en 1960 et c'est vous ça. Avez tout juste 30 ans.
C'est ça, voilà. Et donc, je suis redevable à l'IFP de m'avoir laissé faire un peu ce que je voulais. Et donc, comme j'avais pas d'a priori, parce que j'avais pas fait de thèse, donc j'étais pas orienté vers une réaction quelconque, donc je lisais ce qui me paraissait intéressant, je faisais ce qui me paraissait intéressant.
Mais comment vous êtes entré à l'IFP ? On est venu vous chercher ?
Non, non, mais à l'époque, vous savez, c'était facile, vous cherchiez une place, vous en trouviez, comme je vous disais tout à l'heure, 10. J'ai dit, je veux rentrer à l'IFP, je suis allé voir l'IFP, on m'a dit, très bien, on vous prend. Vous voyez, sans... On n'a pas demandé, avez-vous des diplômes, etc. On vous prend, point.
D'accord, il n'y avait pas une motivation autre, vous concernant l'IFP ?
Non, non, non,
sur
non.
Il cherchait quelqu'un,
voilà. C'était le bon temps.
Et vous êtes resté là-bas 35 ans,
voilà. 35 ans, faisant un peu ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire, je ne travaillais pas dans le cadre habituel du raffinage. Je suis sorti de ce cadre-là. J'étais un peu atypique dans mes recherches. Donc, ce qui était plus ou moins accepté par la direction. Mais enfin, ils ont accepté puisque je suis allé jusqu'au bout. Et du coup, je me suis intéressé à une discipline qui, en France, n'était pas très répandue à l'époque. C'était la catalyse homogène par chimie de coordination. Et donc, je me suis aperçu que j'ai acquis une compétence qui était même reconnue au CNRS ou à l'université. Et comme ça, j'ai fait partie de commissions du CNRS, et ce qui m'a permis de bien connaître l'université française et le CNRS, qui était quand même quelque chose d'intéressant. J'étais à une commission du CNRS, la commission de chimie, et c'était intéressant de voir comment fonctionnait la chimie française.
Alors maintenant, on va peut-être pouvoir entrer un peu plus en détail sur vos travaux. Vous avez travaillé sur la métathèse. Qu'est-ce que c'est la métathèse ? En quoi ça consiste ?
Souvent en chimie, une double liaison, vous ouvrez la double liaison pi et vous ne touchez pas à la liaison sigma. Et la métathèse, c'est l'ouverture simultanée de la liaison pi et de la liaison sigma d'une double liaison carbone-carbone. Et donc, les gens avaient observé cette réaction en catalyse hétérogène, en particulier à la fise pétroleum. Natta avait observé le même type de réaction en catalyse de coordination. Et tout le monde se demandait, d'abord, personne n'avait fait de relation entre catalyse hétérogène et homogène, parce qu'à l'époque, c'était pas répandu comme maintenant. Moi, j'avais pas de problème, parce que je travaillais en catalyse homogène et que les autres labos travaillaient en catalyse hétérogène, donc j'étais habitué à catalyse hétérogène, donc pour moi, il n'y avait pas de frontière. Donc, je me suis dit, c'est la même réaction, et à cette époque-là, tout le monde cherchait comment ça pouvait marcher, et personne n'avait tellement d'idées. Et donc, ça m'est paru assez évident que le mécaniste est celui que j'ai proposé.
Alors, j'ai peut-être une précision. L'Académie des sciences de Suède, pour parler de la métathèse, a une image un peu particulière. Ils expliquent la métathèse comme étant une danse avec un changement de partenaire. Et ça, je crois que oui, c'est vous qui le dites, ça, mais c'est ce qu'ils disent aussi,
oui,
pour essayer d'expliquer un peu
les
choses.
C'est eux qui ont trouvé cette image, qui est très juste. C'est difficile à expliquer en chimie, je vous parle d'électrons,
oui,
sigma et pi.
C'est pour ça que je me permets d'en faire une petite précision.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que vous prenez une oléfine et puis vous la coupez, et puis ça se réarrange avec l'oléfine d'à côté, et puis c'est en quelque sorte un changement de partenaire.
Un changement de partenaire.
Voilà, ils ont trouvé la belle image. Je trouve que ça fait comprendre aux gens, enfin, évidemment, pour ceux qui ne sont pas chimistes.
Alors, une petite précision, vous parliez de catalyse hétérogène et de catalyse homogène. Pareil, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la catalyse hétérogène et la catalyse homogène ?
Oui, la catalyse hétérogène, dans le temps, mais c'est resté comme ça aussi, vous mettez sur un support solide, comme de l'alumine, de la silice, n'importe quel autre, vous déposez sur un support une espèce que vous pensez active, un métal de transition, par exemple, et vous faites la réaction, le plus souvent à température élevée. Et c'est la base du raffinage du pétrole, le réformage, l'hydrodésulfuration, l'hydrogénation sélective, etc. La catalyse hétérogène, c'est à la base de l'industrie du pétrole. Et la catalyse homogène, au contraire, on prend un métal de transition isolé, entouré de coordinats, et vous opérez en solution, à température modérée, l'ambiante. Et donc, maintenant, c'est devenu banal de dire que c'est la même catalyse, mais chose surprenante, il y a 35 ans ou 40 ans, personne ne faisait le parallèle. Alors ça paraissait évident, et ça paraît évident à tout le monde maintenant. D'ailleurs, les gens ne doivent pas comprendre pourquoi on ne pouvait pas comprendre ça.
Donc vous, en fait, vous avez observé, vous avez regardé la métathèse dans la catalyse.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire...
Chose que personne n'avait encore faite.
Il y avait un Américain, Banks, qui travaillait à Phillips Petroleum, qui travaillait en gaz hydrogène. J'avais discuté avec lui, il était très modeste. Il disait, moi, je travaille sur une société qui fabrique des oléfines et on m'a dit, faites passer les oléfines sur n'importe quoi. Et il dit, j'ai pris n'importe quoi. Ce qui n'était pas vrai, c'était bien évident. Et par ailleurs, il y a Nattar, des prix Nobel de chimie, qui étudiait la polymérisation des cycles oléfines, par ouverture du cycle et non pas de la double liaison. Et personne n'avait fait de rapprochement entre ces deux réactions. On dit, ça c'est une oléfine linéaire, ça c'est une oléfine cyclique. D'ailleurs, Nattar lui-même pensait que c'était une liaison sigma entre le métal de transition et le carbone. Et il pensait qu'il y avait une scission du cycle en bêta, comme c'est souvent en chimie organique, etc. Il se trouve que la même année de publication... Fischer, qui travaillait en Allemagne, avait trouvé une nouvelle liaison chimique qui est une double liaison métal de transition carbone, qui n'avait jamais été observée. Avant, on connaissait les liaisons simples, métal de transition carbone, métal de transition hydrogène, etc. Et lui, il a observé une nouvelle liaison. Et pour moi, qui était assez curieux, hein, j'ai tout de suite fait la relation, j'ai dit, mais la catalyse homogène, c'est comme la catalyse hétérogène. Et cette nouvelle espèce, eh bien, elle doit servir dans une réaction, et ça doit être cette réaction-là. C'est-à-dire, d'emblée, j'ai pensé que c'était lié, que les trois réactions étaient liées, quoi.
Alors, en France, vous étiez l'un des seuls à vous intéresser à ce sujet-là.
Oui,
ou en tout cas, en savoir plus.
Oui, c'est ça. J'avais beaucoup d'admiration pour les Italiens, comme Nattar, qui a eu le prix Nobel, pour les Allemands, comme Ziegler, qui a eu le prix Nobel dans le domaine, pour les Anglais, Chat ou Wilkinson qui a eu le prix Nobel. J'étais en admiration devant ces gens, et je trouvais qu'en France, il n'y avait personne qui travaillait dans ce domaine. Et à part donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, il n'y avait pas tellement de pays qui travaillaient. Et donc, je trouvais intéressant de développer cette discipline dans mon institut, dans mon labo, voilà.
Vos observations ont permis de trouver, ou en tout cas de mettre en valeur, de matière, d'Imersol et
l'alpha butol. Ah oui, ça c'est tout à fait indépendant, c'est-à-dire on me demandait de faire de la chimie appliquée.
Voilà.
Et donc...
Ce qui est de la chimie fondamentale et
la chimie appliquée. Alors on me demandait de faire de la chimie appliquée, ce qui ne me déplaisait pas, au contraire. Et puis il se trouve que dans le raffinage du pétrole, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilisait essentiellement les catalyseurs hétérogènes. Et moi j'ai dit, pourquoi dans le raffinage on n'utiliserait pas les catalyseurs homogènes? Alors ça a plutôt surpris. Et puis les raffineurs, ça les a surpris aussi, ça les emballait pas tellement. Mais grâce à l'enthousiasme de mes collègues, et j'étais pas tout seul à être enthousiaste, eh bien on a réussi à faire des procédés qui se sont bu, en particulier aux États-Unis. On avait eu du mal aux États-Unis, hein, les États-Unis et les raffineurs américains.
Parce que pour le coup, vous étiez plus avancé que les Américains dans ce domaine-là.
Oui, bien sûr, oui. Mais les Américains, c'est eux qui sont les pères du raffinage du pétrole. C'est les premiers qui ont découvert vraiment le pétrole, et c'est eux les pères du raffinage. Donc ils connaissent très bien les réactions de réformage, de cracking, etc. Et aller voir un Américain quand vous êtes français et leur dire, ben j'ai un truc qui pourrait vous aider. Alors il y a déjà un scepticisme là, ils disent ça va pas. Puis alors, en plus on leur propose un catalyse homogène alors qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc on a eu du mal, mais la première unité, on a eu des frayeurs, ça marchait pas bien, etc. Et puis une fois que ça a marché, après c'était plus facile de vendre, parce que les autres venaient voir et disaient effectivement ça marche. La première fois ça a été difficile, voilà.
Donc le dimersol et l'alpha butol, c'est dans le cadre de la chimie appliquée.
Appliquée, industrielle. D'ailleurs j'étais assez fier du labo, je trouvais qu'on avait trouvé des trucs intéressants, puisque ça se vendait bien. L'autre procédé, l'alpha butol, il se vend toujours. Ça chiffre à plusieurs millions de tonnes de matières premières transformées par an pour les deux procédés.
Gros trouve où, en fait, par exemple, l'alpha butol?
Oh, c'est un peu compliqué, mais enfin, l'alpha butol, c'est pour faire du butène, hein, à partir d'éthylène. Or, quand vous voulez améliorer les propriétés du polyéthylène, vous avez intérêt à faire des copolymères d'éthylène avec une alpha oléfine. Et donc, vous abaissez ainsi la cristallinité un peu, enfin, un peu le point de fusion du polyéthylène. Alors, quand vous voulez faire des sacs ou des choses comme ça, vous avez intérêt à avoir des polymères pas trop cristallins, assez cristallins pour avoir une bonne résistance mécanique. Et donc, les gens utilisaient le butène comme comonomère, et il se trouve que si dans le raffinage européen le butanin est un sous-produit du craquage, les hydrocarbures, dans les pays arabes, c'est un peu compliqué, dans les pays arabes,
oui.
Ils craquent essentiellement de l'éthane, parce qu'ils ont beaucoup d'éthane, et donc ils font de l'éthylène et ils font pas de butène. Parce que en Europe, aux États-Unis, on craque surtout du nafta, et pas, c'est-à-dire un mélange d'hydrocarbures. Et dans le Moyen-Orient, ils craquent surtout de l'éthane. Et donc ils ont de l'éthylène, ils n'ont pas de butène, donc le Moyen-Orient était très preneur d'un procédé comme ça, qui apparemment était anti-économique, parce qu'en France, le butène a un coût moins cher que l'éthylène, mais chez eux, c'était l'inverse. Donc on a eu là aussi du mal auprès de la direction pour leur expliquer que de faire un truc anti-économique.
Hein,
mais apparemment. Et puis après, il s'est révélé que ça avait beaucoup d'autres... avantage, et donc la plus grosse unité c'est en Arabie Saoudite, et puis on a un peu partout, en Iran, en Égypte, c'est un truc qui marche assez bien. Quoi.
Donc en fait, voilà, les applications, bon, c'est très compliqué, comme vous avez pu nous le dire.
C'est pas très compliqué pour celui qui connaît,
voilà.
Mais évidemment,
bon.
Pour celui qui est pas chimiste, c'est un peu
mais en tout cas, on se rend compte, en tout cas avec vos explications, qu'il y a quand même beaucoup d'applications possibles.
Dans ce que j'ai fait, ben voilà, oui, j'étais payé pour faire de la chimie appliquée, hein.
Oui,
on me le rappelait, on disait...
Et fondamental aussi, mais appliquée...
Il tolérait le fondamental, mais
c'était pas le but de votre emploi.
Non, on m'avait pas embauché pour faire du fondamental. Moi, pour le fondamental, j'aurais pu aller au CNRS ou à l'université. Mais il se trouve que comme j'aimais les deux, bon, et qu'on admettait le fondamental, ça m'allait tout à fait, quoi.
En fait, vous aviez ce côté chercheur qui s'intéressait aussi au domaine de l'industrie, c'est-à-dire que vous n'étiez pas campé à la recherche.
Non.
Ce n'est pas le cas de tous les chercheurs.
Non. Alors pour moi, le fondamental appliqué, c'est la même chose, c'est une question de curiosité, mais c'est une question de tempérament. J'ai le tempérament qui s'accommode beaucoup de la recherche appliquée, un tempérament qui s'accorde aussi de la recherche fondamentale, mais c'est pas pour autant que ce tempérament qui est en moi est commun à tous les chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont faits essentiellement pour faire de la chimie appliquée et qui s'intéressent pas à l'aspect fondamental, et d'autres qui font de la chimie fondamentale et qui s'intéressent pas. Donc j'ai un peu un profil peut-être pas atypique, parce qu'il y a d'autres que moi qui s'intéressent aux deux aspects, c'est évident, mais c'est pas, disons, universel.
Oui. Alors pendant 35 ans, vous avez quand même certainement vécu beaucoup de choses dans ce labo. Est-ce que vous aviez une place particulière ? Est-ce que vous avez pu monter en grade ? Comment ça s'est passé ?
Oh non, j'avais une petite équipe et comme ma recherche était atypique, on n'allait pas me confier tout un ensemble. J'ai toujours eu une petite équipe qui au plus on était 10, quoi, une dizaine, peut-être parfois 12 ou peut-être parfois 8, enfin c'était une dizaine, c'est-à-dire mon équipe est toujours restée modeste, disons. Hein. D'ailleurs, elle correspondait aux idées que j'avais. On m'aurait donné 10 fois plus de personnes, je n'aurais peut-être pas eu 10 fois plus d'idées. Hein, donc j'étais en quelque sorte satisfait parce que, dans le fond, oui, j'avais l'argent qui correspondait à mes idées. C'est un drame d'avoir des idées et pas d'argent. Je pense que c'est aussi un drame d'avoir de l'argent et pas d'idées, quoi.
Eh bien écoutez, Yves Chauvin, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission en habit vert, en compagnie donc du prix Nobel de chimie 2005. À tout de suite.
Un événement.
Une association.
Une œuvre.
Une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque,
sur Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert en compagnie de Yves Chauvin, qui nous a fait le plaisir de venir de Tours pour nous raconter ses travaux concernant la métathèse. Yves Chauvin est donc prix Nobel de chimie et puis également académicien des sciences. Yves Chauvin, nous avons donc parlé pendant pas mal de temps de votre carrière à l'IFP, à l'Institut français du pétrole, pendant 35 ans. Après ces 35 ans, vous avez pris votre retraite. C'était une retraite paisible ?
Oui, c'était une retraite paisible parce que un collègue du CNRS m'a demandé de développer chez lui une thématique que j'avais un peu initiée à l'IFP et qu'il n'avait pas en son labo. Il m'a dit, venez donc dans le labo passer... Pas à temps complet, au contraire, mais vous pouvez avoir un étudiant qui sera supervisé par des gens du labo, et puis vous venez pour qu'on discute des idées générales. Donc tout allait bien, parce que ça occupait une partie raisonnable de mon temps.
Oui, mais j'étais alors, ça veut dire que juste après votre retraite, en fait, vous continuez de travailler.
Oui, c'est ça, mais à un rythme moindre. Bon, j'allais à la bibliothèque, heureusement à Tours, il y a une bibliothèque. Maintenant, grâce à l'informatique, il n'y a plus de problème de papier. On a accès à l'information très facilement, donc je fais ma bibliographie, je m'intéresse aux choses. Et puis de temps en temps, je vais à Lyon, où j'ai eu en permanence un thésard et un postdoc, c'est-à-dire j'avais deux étudiants.
À l'université de Lyon
Au CNRS.
Au CNRS.
À l'école de chimie de Lyon. mais qui fait partie du CNRS, et donc j'avais là un thésard et un postdoc. Ça fait le troisième thésard que j'ai, et le quatrième postdoc, je crois. Donc ça me convient bien, parce que l'activité est quand même plus limitée que quand je travaillais, et puis ça me permet de, bon, après tout, de satisfaire ma curiosité. La chimie, c'est toujours quelque chose d'intéressant.
Alors finalement, c'était un retour aux sources, parce que vous avez commencé à l'école de chimie,
oui,
qui était rattachée au CNRS. Après votre retraite, vous y retournez.
J'y retourne, oui. C'est un peu au hasard des choses, c'est parce que le responsable était intéressé par introduire une nouvelle thématique dans son groupe que j'avais développé à l'IFP, donc ça me permettait d'avoir une demi-retraite, quoi. Hein. Une retraite avec quand même de l'intérêt scientifique.
Qu'est-ce qui vous plaisait, en fait, de continuer avec ces thésards et post-docs?
Ben parce que j'aime bien les jeunes, j'aime bien travailler avec les jeunes. Les jeunes n'ont pas changé en 40 ans. Les premiers thésards que j'ai eus ne différaient pas du tout des thésards actuels. La curiosité est toujours la même, l'enthousiasme toujours le même. Donc j'aimais bien travailler avec les jeunes. D'ailleurs, les jeunes sont très tolérants, parce que prendre comme responsable de thèse quelqu'un qui a 75 ans, ça peut faire peur. Je leur disais, faites attention, parce que je vais peut-être pas passer la première année. Non, non, ils sont toujours d'accord. Ce qui me surprend quand même, parce qu'on a quand même une méfiance. Et c'est vrai que, bah oui, on vieillit quand même, quoi. Hein. Non seulement les neurones, mais aussi la chimie avance éventuellement plus vite que vous, quoi.
C'est quand même, vous avez quand même une activité intellectuelle encore très intéressante.
Oui, oui, j'aime bien aller à Lyon. Thésards. J'aime bien quand les thésards expliquent leurs résultats. Puis grâce à Internet, maintenant, ils m'envoient les résultats au fur et à mesure. Donc on peut discuter à distance. C'était pas pensable avant Internet d'avoir un thésard à 600 km, c'est évident. Maintenant, c'est tout à fait concevable. Alors faut y aller de temps en temps pour quand même qu'on voit comment il manipule, mais on peut faire ça à distance. Et ça m'intéresse toujours, j'y suis allé avant-hier. Et
voilà, donc c'est une activité que vous continuez toujours.
Oui, c'est ça, j'étais très enthousiasmé par les résultats qu'avait une post-doc, dont j'admire la dextérité expérimentale, les idées, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à assister aux présentations du thésard. C'est un moment de, oh, je ne vais pas exagérer, je dirais de bonheur.
De plaisir
en tous les cas, de découvrir des choses nouvelles encore, de voir que des gens trouvent des choses nouvelles.
Et puis un beau jour de 2005, septembre-octobre 2005, octobre 2005,
oui.
Vous recevez un coup de fil.
Oui, c'est ça.
Voilà. Le coup de fil de qui, en fait?
Eh bien, de l'Académie de Suède.
De Suède.
J'ai eu au bout du fil les quatre membres du comité qui avaient sélectionné, qui m'ont félicité successivement
Nobel.
Du prix Nobel. Qui m'ont
et c'est félicité. Comme ça que vous
et
avez
Et c'est comme
appris.
Ça, et qui m'ont dit, dans un quart d'heure, vous allez souffrir parce que les journalistes vont venir, effectivement.
Donc en fait, vous apprenez que vous êtes prix Nobel 30 ans après, parce que c'est ça en
oui,
fait,
35
hein,
ans,
35
oui,
ans
oui,
après vos observations,
oui, oui.
On vous appelle un beau jour, on vous dit attention, oui. Les journalistes débarquent, oui. Dans un quart d'heure préparez-vous, parce oui. Que vous êtes le prix Nobel oui. Chimie bon, 2005.
Bon, je savais que j'avais trouvé quelque chose, parce que tout le monde me citait, je savais que j'avais été le premier, mais de là à avoir le prix Nobel, je n'imaginais pas.
Sur le coup, 35 ans après, on vous appelle pour vous dire, voilà, effectivement, vous avez fait des observations, ça mérite le prix Nobel. Vous étiez un peu agacé ou vous étiez certainement surpris,
oui,
mais...
surpris, et puis en fin de compte un peu agacé, un peu, bah oui...
35 ans, il n'est jamais trop tard pour
non,
se rendre
c'est
compte,
pas ça qui,
c'est
qui...
que...
Non, des découvertes, hein, en chimie comme les autres sciences, ça en fait tous les jours. Et même des découvertes très importantes. Mais le problème est-ce que ces découvertes ouvrent des perspectives fondamentales et des perspectives appliquées? Donc il y a beaucoup de découvertes très intéressantes qui n'ouvrent pas assez de perspectives. Et donc il faut du temps, il faut surtout des gens qui travaillent dessus. J'ai eu la chance que beaucoup de gens ont travaillé sur ce concept. Et donc,
qui était développé, qui...
et d'autre part,
qui a servi.
Fondamentalement, ça a créé beaucoup de recherches et de façon appliquée, ça a créé des nouvelles synthèses. Et dans le fond, ça remplissait un peu le profil que souhaite donner le jury Nobel aux candidats, quoi. Enfin, aux candidats, aux retenus. Je suis des candidats, rien du tout.
Vous avez donc ce coup de fil. Et un quart d'heure après, vous êtes assailli effectivement de coups
oui,
de téléphone
oui,
par les journalistes.
Des journalistes qui arrivaient, beaucoup avaient eu mon adresse, je sais pas comment, et puis ça y est, il sonnait, j'en avais plein de couloirs.
Vous aviez plein de couloirs.
J'ai été pris de midi à 10h du soir, et vous voyez, je n'ai même pas mangé, ni à midi ni le soir, parce que le dernier coup de fil, c'était d'Italie, à 22h. Après, ça s'est calmé pour la nuit.
Vous avez mis le répondeur.
Après, mon répondeur a été saturé. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'ai perdu beaucoup d'appels. D'ailleurs, j'étais tellement assailli que je ne rappelais pas ceux qui m'avaient laissé un message parce que j'avais pas le temps matériel. Voilà.
entre le temps où en fait on vous annonce par téléphone et puis le moment où vous vous rendez en Suède, à Stockholm, il se passe combien de temps en fait ?
C'était au début décembre, c'est-à-dire il se passe deux mois.
Pendant lesquels vous continuez de répondre aux interviews.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, faut que je me prépare mentalement à recevoir le prix. Et c'était un problème pour moi.
Une préparation mentale.
Ben, parce que j'étais pas prêt à ça. Et j'avoue que j'étais assez angoissé. Et quand je suis arrivé en Suède, j'étais même très angoissé. Heureusement, les Suédois ont su me mettre parfaitement à l'aise.
Et qu'est-ce qui vous angoissait ? C'était vos prédécesseurs qui vous angoissaient de voir de grands noms comme Einstein ?
Oui, c'est ça, bien sûr. Quand vous voyez tous ceux qui vous précèdent, vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais là-dedans ?» Et donc, les Suédois ont su me mettre à l'aise, le comité Nobel, ils ont organisé des banquets, des réunions, etc. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait, pourquoi j'avais été retenu, etc. Ils m'ont bien expliqué. Puis ils m'avaient donné une dame pour me piloter, pour m'affranchir tous les problèmes matériels, etc. Elle était très aimable. J'ai été très heureux.
Mais il paraît qu'au départ, vous n'étiez pas vraiment partant pour y aller. Enfin, vous avez
hésité. Non, c'est-à-dire, on m'a dit, les journalistes m'ont dit, est-ce que vous y allez ? Alors j'ai dit, je ne sais pas. Alors ils ont évidemment interprété en disant, il n'y va pas. Non, c'était déraisonnable de ne pas y aller, c'était évident. Mais sur le coup, ça m'a surpris, quoi. Ça me surprend encore. Parfois, je réalise pas. Hein. Je dis, comment c'est...
Et alors, là où les gens qui reçoivent le prix Nobel viennent avec 30, 20, 30 personnes, vous venez avec une petite équipe ?
Oui, j'ai pas invité trop de monde. J'avais mes deux fils, ma belle-fille et deux petits-fils. Et puis, quelques autres personnes de mon entourage, c'était tout. On était 8 invités, quoi.
Donc, les journalistes vous montrent un peu comme étant un chercheur modeste, qui hésite à venir, qui vient avec peu de monde. Est-ce que vous aussi, vous pensiez donner cette image à ce moment-là ?
Oh, je n'essaye pas de donner d'image. Oui. Je suis naturel. Enfin, j'ai toujours été comme ça. J'ai pas changé. Ça n'a absolument rien changé à mon comportement. Hein, j'étais comme ça. Je suis resté de la même façon. D'ailleurs, à mon âge, je n'ai pas changé de comportement. Ce qui me faisait plaisir, c'était la découverte. Il y a 35 ans, après, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les gens ont reconnu la validité de la découverte. Et après, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'être cité dans les manuels de chimie classique. Pour moi, c'était de la satisfaction. Alors, le prix Nobel est venu en plus, quoi.
Alors, quand vous arrivez à Stockholm, vous voyez également le livre d'or.
Oui, c'est ça. On me fait signer le livre d'or. Alors, je signe, et puis j'ai quand même la curiosité de feuilleter les pages précédentes. Alors, je suis terrifié parce que je vois tous ceux que j'admirais, pour lesquels j'avais une admiration sans borne. Je me dis, ma signature est là, c'est évidemment intimidant. Pour moi, c'était très intimidant. Quoi. C'est le moment le plus émouvant. C'était pas la remise par le roi, qui est formelle. C'était le livre d'or, quoi, de voir les signatures des prédécesseurs.
Mais alors finalement, quel est le profil des Nobel ? Puisque vous déclariez, dans une interview que vous aviez donnée au Monde, justement, juste avant de partir à Stockholm, que finalement, c'était pas forcément les physiciens ou les chimistes les plus reconnus, enfin en tout cas ceux qui avaient fait les découvertes les plus importantes, qui recevaient le prix Nobel. Quel est le profil,
si j'ai bien compris ce qu'ils m'ont expliqué, ils aiment beaucoup quand quelqu'un a initié le premier un concept qu'il n'a pas à partager. C'est compliqué de partager des concepts. Bon, à ce truc, dans mon cas, c'était sans discussion possible. C'était moi qui avais initié le concept. J'ai eu du mal à l'imposer, puisque ça a pris 3-4 ans avant. J'en parlais à tout le monde, puis les gens n'acceptaient pas ça. Donc, j'ai pas eu de problème pour être reconnu comme le premier. Et puis, effectivement, quand on voit la liste des gens qui vous précèdent, vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces gens ? Et je ne fais pas partie, je ne suis pas ni Pierre Curie, ni Marie Curie, ni Einstein, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ? En commun, tous ont la curiosité, c'est évident. Tous ces gens ont en commun la curiosité, que j'avais aussi. Et en plus, évidemment, ils ont d'autres qualités que la curiosité. Alors Einstein, c'est son intelligence unique dans le siècle. Les Curie, je crois que ça doit être surtout Marie Curie, sens d'observation, etc. Je pense que... Donc chacun a ses qualités en plus. Mais à la base, la qualité commune, c'est la curiosité, quoi. Voilà.
Alors, quand vous êtes revenu après en France, est-ce que vous aviez des obligations en tant que prix Nobel ?
Je me sens un peu, vis-à-vis de la communauté chimique française, je me sens quand même des obligations. C'est pas souvent qu'il y a des prix Nobel de chimie, hein. Mon prédécesseur, c'est Jean-Marie Lenne, il y a 15 ans, c'est pas fréquent. Donc, je sens que je suis redevable à la société française de m'avoir permis de travailler. C'est évident. On m'a permis de travailler. Et si on m'avait empêché de travailler, j'aurais rien eu. Donc je suis quand même redevable envers la société française en général. Alors donc, quand on demande des choses, dans la mesure où ça me perdure pas trop la vie.
Vous partez en conférence, vous partez faire des colloques.
Non, je veux bien accorder des interviews, discuter, etc. Mais je ne veux pas. Il y a un colloque sur les prix Nobel au lac de Constance au mois de juin, et ça j'ai dit que j'irai pas. On m'invite en Chine, je vais pas aller en Chine.
En Chine, au Canada,
oui,
un peu
au
partout.
Canada. Les économistes du monde entier se réunissent tous les ans en Suisse. Et donc, ils m'avaient invité. Alors, je suis pas qualifié pour parler d'économie. Donc, c'est des choses que je refuse. Quand on m'invite pour des choses pour lesquelles je suis pas fait, je n'y vais pas. Les gens veulent se servir de moi comme d'un pot de fleurs. Non, je veux...
Vous avez une image très poétique.
Oui, mais je ne veux pas que les gens disent « Ah, on a un prix Nobel comme invité », alors que je ne suis absolument pas qualifié pour parler de la question, quoi. Mmh. Hein. Donc je refuse ça.
Vous insistiez aussi sur le fait que vous avez reçu le prix Nobel, mais il y avait deux autres personnes qui étaient avec vous qui l'ont reçu, qui ont participé également à
bien sûr,
thèse,
bien
hein.
sûr.
Je leur... Ce sont les deux Américains.
Alors, dans un sens, je leur dois le prix Nobel s'ils n'avaient pas autant travaillé.
C'est pareil pour eux.
Et c'est pareil pour eux.
Voilà.
Au début, je pensais que je leur étais très redevable. Et après, on m'a
expliqué,
en y réfléchissant, et après ce qu'on m'a dit, mais c'est eux qui vous sont redevables.
Qui sont hein. donc Robert Grubbs et Richard
Schrock. Oui. Mm-hmm. Oui, qui sont des chimistes très brillants pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et que, dont je lisais tous les articles.
Que vous avez rencontré à Stockholm peut-être
à Stockholm, oui, j'avais vu avant, mais incidemment, comme ça, dans des colloques, dans des congrès. J'ai pas eu de relation avec eux, mais grâce aux publications, on sait à chaque instant, tous les mois, ce qui fait le collègue. Donc j'étais très intéressé par leurs travaux. Je trouvais qu'ils avaient fait une très très belle chimie. Hein. Je suis en admiration de la chimie qu'ils ont développée.
Donc vous avez reçu, c'était en décembre 2005.
Oui, c'est ça,
donc le prix Nobel.
Ouais.
Et puis, juste avant, en novembre 2005, vous étiez donc jusqu'à présent correspondant de l'Académie des sciences. Et puis en novembre 2005, vous passez membre de l'Académie des sciences. Et à ce moment-là, certains font un rapport de cause à effet. Monsieur Yves Chauvin reçoit le prix Nobel, ça serait peut-être mieux qu'il soit membre
oui,
plutôt
alors,
que correspondant.
Oui, mais bon, moi j'étais très bien, je me sentais très bien comme correspondant à l'Académie des sciences. Je trouve que c'était mon profil, parce que je n'ai pas une connaissance universelle de la chimie, comme l'ont souvent mes collègues académiciens. Donc, correspondant me convenait tout à fait. Et il y a eu quelques remarques dans la presse, des remarques tout à fait déplacées, qui ont dit, mais l'Académie des sciences n'a rien compris, ils auraient pu le nommer membre, ils n'avaient pas compris qu'il était la stature du prix Nobel, mais ça n'a rien à voir.
Et donc, je pense... Voilà, de l'extérieur, on pourrait facilement avoir
voilà,
cette pensée.
C'est ça. Vu de l'extérieur. Mais, en fait, ce sont les gens qui comprennent pas bien le profil du prix Nobel, ils comprennent pas bien le profil d'un académicien, quoi. Ça peut être des choses assez différentes, hein. Ça peut se
donc
trouver.
Donc vous vous sentiez plus à l'aise dans la stature du correspondant.
C'est ça, voilà. J'étais très bien comme correspondant. Maintenant,
c'est un
très grand honneur. Enfin, je vois que j'ai un peu bouleversé parce que j'ai dépassé l'âge. Je crois qu'à l'Académie des sciences, on veut pas trop mettre des gens âgés, évidemment. On veut des jeunes, dynamiques, on dit des nouvelles, etc. C'est tout à fait normal, quoi. Puis d'ailleurs, j'ai quand même un peu, je suis déconnecté un peu de l'université. Du CNRS, bien que je travaille dans le labo du CNRS,
oui.
Mais enfin, avant j'étais à la commission du CNRS d'ailleurs, alors j'avais beaucoup de relations avec tous mes collègues chimistes, que je n'ai plus maintenant, parce que je ne fais plus partie de commission du CNRS, évidemment, donc j'ai moins de contact avec la chimie française que j'en avais au temps de mon activité.
Alors, pour terminer, Yves Chauvin, vous avez donc travaillé dans le domaine de la pétrochimie, hein, que ce soit donc de la chimie appliquée ou fondamentale, plus appliquée que fondamentale,
bien
parce
sûr,
que
oui,
en étant à l'IFP, hein,
oui,
il fallait
oui.
bien
travailler. Oui, il
voilà, faut gagner de l'argent. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis rapidement sur la situation actuelle de la crise du pétrole?
Je suis pas tellement qualifié pour répondre. Enfin, que le prix du pétrole augmente, après tout, moi, ça me fait pas peur que le coût de l'énergie
mais
augmente.
Mais sur la baisse des ressources énergétiques, en fait.
L'homme s'est toujours accommodé, hein. Depuis le néolithique jusqu'à maintenant, il a surmonté toutes les crises, hein. Et il n'y a pas de raison pour que l'homme ne surmonte pas la crise énergétique. On était dans une période d'abondance énergétique. Si cette période disparaît et que l'énergie devient chère, l'homme s'adaptera. Je n'ai aucune crainte là-dessus. Je suis d'ailleurs très surpris de voir que des jeunes sont inquiets en disant « qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus de pétrole ?» Ben, on peut faire autre chose. Hein.
Mais vous, en tant que chimiste qui travaillait au départ un peu là-dessus, est-ce que vous pensez qu'on pourrait essayer de décliner d'autres ressources, enfin qu'on pourrait essayer de se servir d'autres ressources
non,
pour les remplacer?
Ben bien sûr, mais c'est sujet d'un débat permanent qui a lieu partout. Je ne suis pas ajouté mon grain de sel là-dedans. Les gens qui vont dire le nucléaire, la biomasse, etc., le solaire, l'énergie verte, l'éolien, etc. Je ne suis pas à ouvrir ce débat qui est permanent et pour lequel des gens bien plus qualifiés que moi se prononcent. Moi, je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir. Quand j'étais jeune, dans les années 50, on dépensait certainement par tête d'habitant 10 fois moins d'énergie que maintenant. Et on vivait tout aussi bien. Je rappellerai, quand j'étais étudiant, je suis allé en Yougoslavie à vélo. Et évidemment, ça surprend les gens maintenant parce qu'ils y vont en avion.
Vous avez en Yougoslavie à vélo depuis où?
Depuis Lyon.
Depuis Lyon.
Oui, je suis parti à Lyon, la vallée du Rhône, le col du Simplon, après la vallée du Pô, Venise, etc.
Oui.
Mais c'était tout à fait normal. On n'avait pas de voiture à cette époque. Enfin, les
vous
étudiants n'avaient pas de voiture.
Manière,
on prenait
de
le vélo. Il n'y avait rien. Bon, ben, demain, on reprendra le vélo. C'est pas très. J'ai de bons souvenirs du col du Simplon. C'était un peu dur, mais enfin, c'est pas désagréable non plus.
Donc dans 50 ans, on reprendra notre vélo?
Pourquoi
vous pensez
pas,
qu'il faudra qu'on change notre manière de
Je ne peux pas prévoir, mais l'homme s'adaptera, il n'y a aucun problème. Il ne vivra pas comme maintenant, il vivra autrement, mais je n'ai pas d'inquiétude sur le...
Mais quand on regarde la construction, par exemple, d'A380, vous voyez des...
Oui, ça me surprend un peu quand même.
Ah, alors vous voyez...
Ça me surprend un peu qu'on construise
de des avions qui ont besoin de kérosène.
C'est ça, et qui sont construits pour 30 ans ou 40 ans, parce qu'un avion, paraît-il, marche pendant 30 ans. Alors je me dis, dans 30 ans, le kérosène, il sera à un tel prix que l'avion restera sur
il
le tarmac.
Au sol.
Parce que, mais enfin, on verra bien, on verra bien. C'est pas très inquiétant.
Donc, quel serait votre dernier mot de fin, là, si vous deviez ajouter un mot supplémentaire sur quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas évoqué, mais que vous souhaiteriez rajouter, je ne sais pas, peut-être sur votre fonction d'académicien, sur votre rôle de prix Nobel, ou sur vos rencontres à venir?
Mon expérience est personnelle et ne peut pas convenir aux autres. Je n'ai pas de remarques particulières à faire. J'ai eu un certain profil dans ma vie, que je ne regrette pas, mais qui m'est personnel.
Vous ne tenez pas à servir de repère pour vos étudiants?
Non, je ne suis pas du tout un modèle. Je ne suis pas du tout un modèle. Je suis toujours surpris que les jeunes me disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?»
Mais vous êtes un modèle en ce sens où, comme vous le disiez au tout début de notre entretien, c'est que vous avez fait des études qui n'étaient pas forcément tellement brillantes.
Non,
et finalement, vous terminez prix Nobel. Enfin, vous terminez. Vous n'êtes pas encore terminé, mais je veux dire, vous avez quand même le prix. Vous avez quand même le prix Nobel de chimie.
Oui, comme quoi.
Tout
le monde peut avoir le prix Nobel, mais il faut pas exagérer non plus. Mais la curiosité, c'est quand même une motivation dans la vie, que ça soit la curiosité matérielle ou la curiosité intellectuelle, c'est une motivation et ça donne des satisfactions que rien d'autre peut remplacer, quoi. La curiosité, c'est une motivation tout à fait extraordinaire.
Oui, c'est ce que vous disiez dans une interview accordée à Cité des Sciences à la Villette à Paris. Il faut de la curiosité, c'est ça qui compte.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et on a toujours besoin de curiosité, c'est sans fin. Et c'est ça qui est bien.
C'est sur ces derniers mots que nous nous quittons, Yves Chauvin. Merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir un petit peu dévoilé quelques côtés de votre personnalité. Je rappelle que vous êtes donc académicien des sciences dans la section de chimie et que vous avez reçu le prix Nobel de chimie. Donc... en décembre 2005. Merci d'être venu et puis certainement une prochaine fois peut-être.
C'est moi qui vous remercie. C'était un grand honneur pour moi de m'exprimer dans ces micros.
Merci. Au revoir.
Au revoir.